Donc, comme vous le savez, sur certaines thématiques de webconférence, il nous arrive de faire appel à des personnes extérieures à Jury Travail. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons souhaité faire appel à deux acteurs de la RSE au sein de leur entreprise. Tout d'abord, Thibaut de Fouchécourt, responsable RSE groupe de Groupama. Bonjour Thibaut et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Myriam, bonjour à tous.
Et enfin, Jefferson Marshall, que j'ai grand plaisir à retrouver puisqu'il s'agit d'un ancien juriste de Jury Travail, donc un ancien collègue qui était également anciennement élu au sein de notre CSE. Donc, il intervient aujourd'hui dans le cadre de ses nouvelles fonctions en tant que chargé RSE au Crédit Agricole du Finistère. Bonjour Jefferson et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette webconférence.
Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, c'est vrai qu'on avait l'occasion de collaborer pendant pas mal d'années où j'ai pu intervenir en tant que chargé d'entreprise. Donc, je suis ravi de pouvoir poursuivre cette collaboration dans un tout autre contexte.
Merci encore. Donc, si vous souhaitez poser des questions, nous avons deux collègues juristes, Alice et Alexandra, qui sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Donc, vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître soit en bas de votre écran, soit sur le côté. Et c'est un bouton avec une espèce de petite bulle de dialogue sur lequel il faudra cliquer. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Beckham, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation. Et pour tous les aspects plus concrets de l'ARSE, nous y avons ajouté donc les coordonnées de Thibaut de Fouchécourt et de Jefferson Marshall. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions pour cette conférence. Le sujet vous a manifestement beaucoup intéressé et nous vous en remercions. Donc, toutes ces questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Nous verrons d'abord l'aspect l'histoire de la RSE et son aspect légal. Nous verrons ensuite nous demanderons ensuite à Thibaut de Fouchécourt et Jefferson Marshall de nous présenter les dispositifs RSE qui sont présents dans leur entreprise. Nous aborderons enfin la manière qu'il faut employer pour pouvoir mettre en place de la RSE. Et enfin, nous terminerons sur les avantages et les perspectives de la RSE. Donc, en guise d'introduction, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table et je souhaiterais que vous me donniez tous les trois votre définition de la RSE. Je commence avec vous, Maître Beckham.
Oui. Alors, bon, il y a vraiment une variété de définitions, en fait, hein, qui donne déjà, d'ailleurs, une idée un peu de la complexité et de la richesse de la notion, hein, qui est liée à l'approche pluridisciplinaire de la RSE, puisqu'on a, on peut avoir une approche aussi bien sociologique, économique, juridique encore. Et bon, donner une définition, c'est déjà en soi un défi, on va dire. Bon, alors… Si je dois assumer ma casquette de juriste, je vais donner d'abord une définition assez normative, hein, et même si c'est pas peut-être la plus passionnante ou la plus satisfaisante, c'est déjà une première approche assez complète du concept. On a la norme ISO 26000 qui nous donne une première définition d'ensemble et qui définit la RSE comme la maîtrise par une organisation, donc une société, hein, une structure, quelle qu'elle soit, des impacts de ses décisions et activités. Sur, d'une part, la société, mais aussi l'environnement, et qui doit se traduire par un comportement éthique et transparent, nous dit la norme ISO, qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, et qui doit prendre en compte, les attentes des parties prenantes. Alors, les parties prenantes, hein, en termes de droit du travail, par exemple, ou pour une société, c'est… Ça peut être bien entendu les salariés, mais aussi les actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants, enfin l'ensemble du public auquel s'adresse la structure. On a également dans cette définition la prise en compte de la nécessité de respecter les lois en vigueur, tout en étant en cohérence avec les normes internationales, parce que c'est vrai que On a aussi un aspect avec la mondialisation de prise en compte des impacts environnementaux à l'international, enfin pas seulement environnementaux d'ailleurs, sociaux également. C'est une démarche enfin qui doit être intégrée, nous dit la norme ISO, dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Voilà. Donc bon, c'est forcément assez complexe et un peu aride. Moi, l'idée centrale que j'en retiens, peut-être tout d'abord, mais on en dira plus bien sûr par la suite, c'est que peut-être que l'idée serait que la rentabilité économique et financière n'est pas le seul facteur ou le seul indice de performance de l'entreprise, et qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte au-delà de cette seule performance économique. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, Maître. Jefferson, ta définition, s'il te plaît.
Je crois que Maître Beckham a apporté une définition exhaustive finalement de la RSE par rapport à l'ISO 26000. Si on peut tenter de la simplifier encore, finalement, ça pourrait être l'idée que, en tant qu'organisation, on adopte finalement un comportement responsable au quotidien dans ses activités, mais à la fois intégré dans sa stratégie, tout en tenant compte finalement de ce qu'a évoqué Maître Beckham, les parties prenantes. Et si je devais résumer tout ça en simplement quelques mots-clés, ce serait tout simplement faire preuve de bon sens, de bienveillance, et puis de s'inscrire dans une démarche de progrès. Alors, quand je dis démarche de progrès, c'est s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, en considérant qu'on ne pourra jamais en fait cocher l'objectif d'être à 100% RSE dans une organisation.
Très bien, merci beaucoup Jefferson. Et je vous laisse conclure, Thibaut.
Alors moi, ma définition va compléter tout à fait ce qui, je me retrouve évidemment tout à fait dans ce que les autres intervenants viennent d'exprimer. Je le formulerai comme ça, je dirais que la RSE, c'est la prise en compte par l'entreprise des attentes sociétales, hein, si on a un résumé. Et ces attentes sociétales, elles vont venir de ces parties prenantes, hein, c'est-à-dire des actionnaires, des salariés, des clients, des partenaires. Et tout l'enjeu va être de combiner de manière équilibrée ces attentes. Et en fait, l'objectif, c'est d'aligner un peu les intérêts de toutes ces parties prenantes. Et ça va être la clé du développement durable de la société. En tout cas, ça va y concourir. Et ça va concourir aussi, bien sûr, au développement durable de la société, de son environnement, etc. Là, je parle de la société sociétale. Mmh. Et concourir à faire avancer des sujets aussi d'intérêt général. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Donc, venons-en maintenant à l'historique et l'aspect légal de la RSE. Maître, pouvez-vous nous résumer un petit peu l'histoire de la RSE? Est-ce obligatoire? Et si oui, pour quel type d'entreprise?
Oui, alors bon, forcément, je vais être très synthétique, hein, là, en l'occurrence. On ne va pas remonter au calendrier grec, hein, pour ce qui est de l'histoire de la RSE, mais on peut dire en substance que c'est né d'une réflexion qui est partie des États-Unis, notamment dans les années 70, d'ailleurs qui est concomitante avec la prise de conscience environnementale. Hein. D'ailleurs, dans RSE, le premier mot, c'est responsabilité. Donc, on n'est pas juste dans une responsabilité en termes de risque, de juridique ou financière ou autre, mais on est aussi dans une responsabilité en termes de « je me sens responsable ». Donc, les Anglais disent le « care », c'est-à-dire prendre soin, « je suis responsable de mon environnement ». Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est né une réflexion qui vraiment a été en genèse dans les années 70, avec le rapport Meadows, notamment en 72. Et puis, au niveau des Nations Unies, hein, on avait eu le nouveau pacte social qui était issu de la déclaration de Stockholm, pareil, de la même année d'ailleurs. Et on a une source, en fait, normative qui vient de ce qu'on appellerait en droit anglo-saxon de la soft law, c'est-à-dire d'un certain nombre de préconisations, de recommandations, notamment internationales, hein, à l'origine, qui n'étaient pas donc impératives, mais qui essayaient d'infuser des règles de bonne conduite, si on peut dire comme ça, avec la prise de conscience que le développement de la mondialisation avait nécessairement des impacts aussi bien au niveau de l'environnement que que dans le fonctionnement même des entreprises. Voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, c'est de là qu'est parti ce concept de RSE. Après, l'aspect légal en tant que tel, il est très divers. Là encore, on est dans une approche complètement interdisciplinaire. On a d'abord aujourd'hui un arsenal législatif qui est vaste, puisque on a un ensemble de normes qui vont aussi bien toucher au droit du travail qu'au droit de l'environnement, qu'à tout un tas d'aspects en fait que l'on peut tenter de regrouper, mais qui sont forcément assez disparates. Et quand vous m'interrogez sur le caractère obligatoire, toutes ces normes sont obligatoires dans un certain sens, hein. Mais je pense que ce qu'apporte la RSE, c'est vraiment une vision d'ensemble. C'est une vision de cohérence et de sens entre ces différentes obligations légales qui ont été posées et la manière de les mettre en œuvre au sein des structures. Et en plus de ces obligations légales, alors je ne vais pas vous les lister, mais vous les connaissez toutes, hein. Dernièrement, si on se réfère à l'actualité, le télétravail, bien sûr, hein. On peut considérer que le télétravail, il a un vrai rôle dans une entreprise, dans une organisation. La mobilité, même chose, c'est un débat en termes aussi environnemental. La promotion de la diversité, enfin voilà, tout un tas de thématiques que l'on connaît et qui relèvent de la RSE, mais de manière presque cachée. Hein. Voilà, ça n'en porte pas le nom, mais ce sont des composantes. Et de manière accessoire, non pas en marge, mais enfin, en tout cas, c'est aussi une source juridique, hein, d'une certaine manière. Vous avez aussi un ensemble contractuel qui, là, relève du commun accord des parties, hein, c'est-à-dire que les organisations elles-mêmes vont contracter avec leurs partenaires en mettant en place des cahiers des charges, parfois, ou des chartes. On a le concept, par exemple, d'achat responsable qu'on peut avoir avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants. Ça peut toucher l'énergie, l'environnement, les conditions de vente, les infrastructures. Voilà, une sphère contractuelle qui vient compléter les obligations légales et où les partenaires s'obligent eux-mêmes, sans que la loi soit forcément là pour intervenir et les obliger à faire, mais s'obligent entre elles à adopter des conduites qui vont être vertueuses dans le cadre de leurs relations. Voilà. Donc, la RSE aujourd'hui n'est pas posée comme telle, comme étant obligatoire, mais elle l'est en définitive, puisque dans tous les domaines qui sont impactés par cette réflexion, eh bien, il y a des dispositions effectivement légales, réglementaires, parfois même internationales, hein, bien sûr, qui viennent obliger les entreprises à prendre en compte ces aspects. Et sur le fait de savoir qui doit être concerné ou se sentir concerné par la RSE, là, je vais vous dire, c'est tout le monde. Parce que, effectivement, on n'est pas obligatoirement, comme on pourrait le penser de prime abord, sur des très grandes entreprises, hein, qui ont forcément peut-être plus de moyens, mais ça touche aussi les PME, voire les TPE, parce que, en partie, alors c'est vrai que plus l'organisation est de taille modeste, plus ça dépendra de l'impulsion donnée par le chef d'entreprise, parce que bon, nécessairement la représentation du personnel sera peut-être moindre ou inexistante, mais toujours est-il que c'est vraiment une thématique qui touche l'ensemble des structures.
Très bien, merci beaucoup, maître. On entend souvent et on lit souvent le fait que la RSE a trois grands piliers. Jefferson, tu pourrais nous éclairer sur ces trois piliers?
Alors, on a tendance aujourd'hui à, un peu par raccourci, à se référer aux trois piliers du développement durable, donc économique, social, environnemental. Donc très rapidement, l'économique, c'est effectivement donc la santé de l'entreprise et puis du territoire sur lequel elle se situe. Social, c'est s'intéresser à l'humain en tant que tel. Et puis environnemental, là, il n'y a pas photo. Je vais peut-être plutôt vous proposer mes trois propres piliers finalement de la RSE qui sont dans un premier temps une démarche volontariste, qu'a déjà évoqué Maître Beckham, c'est-à-dire d'aller au-delà du cadre légal. Le deuxième pilier, c'est que l'on embarque l'ensemble des acteurs, pas uniquement un comité, mais réellement la direction et puis l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et puis le troisième pilier, et là j'insiste très lourdement là-dessus, c'est les parties prenantes. C'est les intégrer dans la démarche, co-construire les différents projets RSE dans l'entreprise, être à leur écoute. Et c'est le corollaire de la responsabilité, c'est d'être en capacité de leur rendre compte de nos actes.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jefferson. Alors, parlons maintenant de ce qu'a apporté la loi PACTE avec vous, maître, et abordons donc le statut des entreprises à mission, qui est un dispositif assez précis. Comment s'inscrire dans cette démarche et quel bilan peut-on tirer de ces entreprises à mission au bout de 2 ans d'existence?
Oui, alors la loi PACTE, hein, pour mémoire, c'était une loi de mai 2019, effectivement, et qui avait pour ambition de permettre de renforcer la RSE au sein des entreprises. Alors, par différents moyens, il y a eu notamment le renforcement de l'épargne verte, d'un certain nombre de dispositifs sur la participation des salariés, mais parmi les mesures phares, en tout cas au niveau RSE, il y a eu la modification du code civil, hein, qui a permis aux entreprises de modifier leur objet social pour prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux notamment, et la création de ces entreprises à mission ou sociétés à mission qui pouvaient donc se doter d'une raison d'être, hein, c'est la formulation employée, inscrite dans leur statut, hein, donc ça impliquait une modification des statuts et de redéfinir en fait une forme d'objet social en fonction des valeurs portées par l'entreprise. Alors, ça peut paraître symbolique, hein, d'une certaine manière, mais c'est vrai que ça permet déjà d'initier une réflexion, moi je dirais presque constituante, hein, à la même manière dans un État quand on réfléchit sur sa constitution, mais une société c'est un peu la même chose, on pose la question du sens, hein. Le sens serait-il au profit qu'on va tirer de l'entreprise, peut-être d'ailleurs, mais alors à ce moment-là, quel type de profit? Est-ce un profit financier, un profit personnel, social? Voilà. Donc, ça permet de poser les bases de valeurs partagées au sein de la structure. Alors, après, sur le bilan, on a le comité de suivi de la loi PACTE qui a rendu un rapport récemment en septembre dernier, là, et qui nous fait comprendre quand même que, bien qu'il y ait eu ambition, ça reste aujourd'hui assez limité parce que on a à peu près en septembre 2020 donc une soixantaine de sociétés seulement qui se sont dotées d'une raison d'être, hein, donc c'est relativement peu, même si on n'a pas un suivi totalement mathématique des sociétés qui ont pu mettre en œuvre ce type de disposition. Pour ce qui concerne les sociétés à mission, c'est beaucoup plus précis par contre parce qu'elles doivent déposer déclarer en fait leur qualité au greffe du tribunal de commerce, et donc on a un chiffre précis. Et là, bon, il est très modeste, hein, puisque on a à peu près une vingtaine de sociétés seulement qui ont déclaré ce statut de société à mission. Des sociétés comme la Maïf, par exemple, le groupe Rocher dans les cosmétiques, la Camif aussi dans l'e-commerce, et puis Danone dans l'agroalimentaire. Voilà les quelques exemples qui ont pu être donnés. Donc aujourd'hui, ça reste quand même principalement symbolique, mais ça a eu le mérite quand même d'impulser, je pense, cette réflexion et de continuer à lui donner une dynamique. Voilà.
Très bien. Et j'ajoute que pour suivre pas mal ce genre de choses sur les réseaux sociaux, et pour parler aux représentants du personnel qui nous écoutent, beaucoup de syndicats font également la demande au sein de leur entreprise pour que leur entreprise s'engage dans cette voie-là. C'est donc à nous, élus, de nous saisir de ce sujet. Alors, on va accélérer un petit peu. Un petit peu sur la mise en place donc d'un dispositif RSE, est-ce qu'on peut le faire beaucoup plus simplement qu'avec toutes ces choses normatives dont on a parlé auparavant? Une charte RSE pourrait-elle suffire, par exemple, et que doit-elle contenir?
Oui, alors bon, bah là encore, je vais prendre la parole. C'est encore un peu juridique, mais bon, pour faire simple, effectivement, quelle que soit la dénomination d'ailleurs, hein, on peut appeler ça code de bonne conduite, charte éthique, je pense, voilà, chacun a fait preuve d'imagination en la matière. La question après est de savoir quelle est la portée qu'on lui donne, hein, au niveau de l'entreprise, et de savoir d'ailleurs si on l'intègre ou pas au règlement intérieur, par exemple. Hein. Auquel cas, bah, nécessairement, le CSE doit être consulté, hein, sur la question, d'autant plus s'il y a des sanctions qui peuvent découler de l'absence de respect de ces chartes. Hein. On l'avait vu d'ailleurs pour les chartes informatiques, par exemple. Bon. Et l'inspection du travail peut aussi éventuellement avoir son mot à dire. Donc, la charte, ça me semble déjà être certainement un outil, je ne vais pas dire indispensable, mais en tout cas nécessaire, hein, qui permet de se poser les bonnes questions. On peut avoir recours déjà au préalable à un audit, hein, ou à une forme de diagnostic en amont pour déjà s'interroger sur… sur le périmètre en fait hein, de cette charte et sur les intentions qu'on a par rapport aux implications environnementales ou sociales et puis pourquoi pas et là j'ai envie de dire c'est encore mieux désigner un référent hein, au sein de l'entreprise bien sûr un référent RSE comme l'on a pu faire en matière de risques psychosociaux qui soit désigné déjà ou même recruter, hein, si on en a les moyens, hein, qu'il soit pleinement dans cette fonction, c'est encore mieux. Et ça permet vraiment de donner toute son ampleur à la volonté de se saisir, enfin, toute son ampleur au dispositif qu'on va mettre en place. Parce que c'est bien de mettre en place des chartes, mais nécessairement, si ça reste un écran de fumée et une déclaration de principe, et que personne ne s'en saisit, on ne voit pas très bien l'utilité. Donc, si l'on a réellement le souhait de se positionner et d'avoir des dispositifs efficaces, il faut derrière donner les moyens, notamment au CSE hein, et aux représentants du personnel. Alors, il peut s'agir d'un délégué du personnel. On peut créer aussi une commission spéciale hein, RSE au sein du CSE. La commission santé sécurité peut s'en saisir également. Donc on a tout un éventail en fait de possibilités, mais encore une fois, qui n'a de sens que dans le dialogue social. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, la RSE est un moyen positif, vertueux de nourrir le dialogue social. Et comme l'a dit Jefferson Marshall tout à l'heure, c'est vraiment avec le concours des différentes parties prenantes qu'on va faire vivre ces principes de RSE au sein de l'entreprise. Voilà.
Tout à fait, merci. Alors, abordons maintenant un petit peu le futur. En parlant de la loi climat, qui est toujours en cours de débat, enfin, qui fait toujours l'objet des débats parlementaires, mais normalement, la loi climat devrait apporter certains éléments à la RSE. Quels sont-ils ?
Ah bah, la loi climat, c'est vrai qu'on est là, on est presque dans la prospective. Hein. Je ne veux pas dire qu'on est dans la fiction, mais bon, on attend avec impatience. Ce que ça va donner, il faudra attendre de toute façon les décrets d'application. Pas plus tard que le 17 avril dernier, d'ailleurs, l'Assemblée nationale a terminé l'examen en première lecture de la loi, donc on a déjà quelques éléments. Mais la volonté, entre autres, du législateur, à la suite de la Convention citoyenne dont tout le monde a entendu parler, hein, sur le climat, c'est de consacrer des attributions environnementales au CSE. Voilà. Donc, de permettre au CSE de se saisir de cette thématique sur tous les champs en fait où la procédure d'information et de consultation doit avoir lieu hein, et de lui permettre de poser ces thématiques-là sur tous les sujets dont je n'ai pas vraiment parlé tout à l'heure mais que vous connaissez hein, la rémunération, la mobilité, etc. Il est prévu en tout cas de modifier notamment l'article 2312-8 du Code du travail pour que ces obligations d'information et de consultation du CSE portent également sur les conditions d'emploi de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle, mais notamment sur les enjeux de transition écologique, voilà, entre autres. Alors, il y a des limites qu'on pressent déjà, c'est ce qui fait dire à certains qu'on est encore dans le symbole et peut-être un peu dans la cosmétique, c'est que a priori, ça ne sera applicable qu'aux entreprises de plus de 50 salariés. Bon. On n'a pas non plus de précision sur les moyens qui vont être attribués aux représentants du personnel et au CSE pour cette nouvelle attribution environnementale. Rien sur les heures de délégation, malheureusement. Alors, on sait bien qu'en plus, bon, les heures de délégation, c'est quand même un débat, surtout aujourd'hui avec la fusion des instances. Bon, ça, on aurait pu peut-être prévoir quelque chose sur cette question. Pareil pour les obligations de formation, parce que c'est bien de donner des possibilités, mais encore faut-il les parties intervenantes, les parties prenantes puissent se former à la question. Ça, c'est important et on n'a rien dans la loi. Et on n'a pas non plus de précision sur les conditions de recours à un expert. Parce que là encore, bon, on sait bien que c'est pas l'expert comptable qui va, enfin, en tout cas, peut-être pour partie, mais n'est pas sa fonction première, on va dire, hein, et pas le juriste non plus. Bon, même s'il peut intervenir de manière peut-être plus précise sur la mise en forme, mais en tout cas, il serait utile de prévoir le concours d'un expert sur ces questions, notamment par exemple sur l'environnement, qui pourrait apporter une richesse de vue souvent indispensable.
Très bien, merci, merci beaucoup, maître. Et donc, affaire à suivre. Passons maintenant à l'aspect un petit peu concret de la RSE. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on peut mettre en place dans nos entreprises, je vais d'abord demander à Thibaut de Fouché-Court de nous présenter donc le dispositif RSE tel qu'il a été mis en place chez Groupama.
Alors, chez Groupama, donc d'abord, Groupama, c'est une grande entreprise, comme vous savez, hein, c'est 25 000 collaborateurs en France, plus de 30 000 élus mutualistes. Et donc, on s'est doté d'une raison d'être, hein, ça a été évoqué, le sujet de la raison d'être a été évoqué précédemment. On ne l'a pas fait entrer dans les statuts, mais enfin, on s'est doté de cette raison d'être et on l'a partagée très fortement en interne. Et on s'est doté, bien sûr, d'une stratégie RSE qui, évidemment, est en appui de cette raison d'être, enfin, se veut faire vivre, évidemment, cette raison d'être. Alors, nous, on fonctionne très concrètement, on fonctionne avec une stratégie RSE qu'on ajuste tous les 3 ans, qui tourne toujours à peu près autour des mêmes axes, et je vais très rapidement l'évoquer, sachant qu'aussi, je disais qu'on était dans un grand groupe. Donc, moi, je suis au niveau RSE corporate, hein, au niveau de la holding de tête du groupe. Et donc, on promeut donc un plan cadre au niveau groupe. Et après, on appelle les entreprises qui font partie de ce groupe, évidemment, à s'inscrire dans ce plan avec leur propre déclinaison, naturellement, de cette stratégie RSE. Alors, la stratégie RSE en elle-même, elle a quatre axes. Donc un axe sur d'employeurs responsables, hein, employeurs attentionnés et engagés dans la réussite collective. On va retrouver tous les thèmes assez classiques de la responsabilité d'employeur. On a un deuxième axe sur le développement d'une relation client responsable, hein, assureur créateur de solutions et services durables, avec évidemment donc la réponse à des enjeux sociétaux en termes assurantiels, en termes de services. On a beaucoup insisté dans cette stratégie aussi sur les aspects notamment agricoles, sur les aspects de protection sociale, etc. Évidemment, je n'entre pas du tout dans les détails. Un troisième axe sur partenaires des communautés et des territoires, partenaires solidaires des communautés et des territoires. Groupama, c'est un groupe avec un maillage territorial très fort, et donc ça a beaucoup de sens, évidemment. Alors derrière, on va retrouver, évidemment, le mécénat, la solidarité, la relation responsable avec les partenaires en région. Et puis un quatrième axe sur Groupama, acteur de la transition écologique. Alors donc là, l'idée, hein, c'est évidemment de réduire donc l'impact direct et indirect de l'entreprise sur l'environnement dans le contexte de transition que vous connaissez, transition climatique et environnementale. Alors, les actions très concrètes, bon, alors évidemment, vous imaginez que sur un grand groupe, il y a beaucoup de choses, hein. On développe un puits de carbone important avec nos actifs forestiers. On est un très gros propriétaire forestier, donc on développe donc ce puits de carbone. On développe aussi la construction bas carbone, hein, sur les matériaux de construction pour les bâtiments, naturellement. On développe aussi un programme retraite, hein, vraiment axé sociétal. On développe aussi, on labellise aussi de plus en plus de fonds, hein, qui servent après, donc, dans lesquels qui servent après à nos supports d'épargne, labellisation, investissement socialement responsable, Greenfin, etc. Et puis, on développe aussi, on a un plan assez ambitieux aussi de développement d'achat auprès du secteur adapté, dans l'ensemble des régions françaises. Voilà, très rapidement, le dispositif avec derrière, évidemment, une gouvernance, ça c'est très important, hein, avec la RSE à l'agenda des instances dirigeantes, un réseau de correspondants RSE dans les entreprises du groupe, les référents dont on parlait aussi tout à l'heure, enfin, qui a été évoqué rapidement tout à l'heure, et très rapidement l'architecture de la RSE chez Groupama.
C'est très complet. Merci. Jefferson, donc, comment s'articule la RSE au Crédit Agricole du Finistère?
Alors, je vais être, je pense, encore plus succinct et peut-être me rattacher à une démarche ultra concrète, en fait, pour vous donner un petit peu l'actualité de la RSE. Pas plus tard qu'hier, on a terminé, en fait, toute une période de consultation de tout notre écosystème, de toutes nos parties prenantes, incluant notamment des organisations syndicales. Mais le panel était très large, hein, des collaborateurs, des fournisseurs, des associations locales, voilà, et d'autres parties prenantes que nous avons en fait accueillies lors de plusieurs sessions d'échange. Et notre souhait, c'était finalement de eh bien mieux les connaître, de dialoguer avec elles pour bien déterminer quelles étaient leurs préoccupations, leurs attentes et leurs intérêts par rapport justement à l'impact de notre activité et notre stratégie. Et on leur a demandé tout simplement par rapport à tous les domaines d'action en matière de RSE, donc éthique des affaires, le respect du consommateur, l'environnement, la gouvernance, etc. Tous ces domaines, on leur a eh bien demandé de les prioriser pour qu'ils puissent nous donner eh bien à leurs yeux quelle serait l'orientation qu'ils désirent eh bien de notre propre stratégie commerciale au Crédit Agricole du Finistère. Et ça s'inscrit dans notre volonté d'être une banque de proximité. Alors, une autre démarche un peu plus conceptuelle, mais que l'on est en train d'opérationnaliser en ce moment, c'est que l'entreprise, elle est en train de se transformer dans son métier de financeur. Alors, de deux façons. La première, c'est que on souhaite se positionner en tant qu'accompagnateur de la transition de tous les marchés, l'agriculture, des particuliers, des professionnels. Donc un accompagnement en tant que tel. Et une autre manière, c'est que l'on est en train de former tous nos commerciaux eh bien à maîtriser bien toutes les critères extra-financiers lorsque l'on va eh bien leur soumettre des projets de financement. Ils vont pouvoir apprécier finalement la durabilité ou non des projets qui leur seront soumis. Donc voilà un petit peu concrètement deux démarches que l'on est en train de mettre en œuvre en ce moment.
Très bien, merci beaucoup Jefferson. Alors, l'heure tourne, il nous reste normalement 10 minutes pour traiter les deux dernières parties. Donc, je préviens nos internautes qu'on débordera très certainement je vois certaines questions sur les replays qui tombent. Vous aurez accès à la vidéo complète qui vous sera envoyée par email dans les jours qui viennent. Donc, parlons de la mise en place de la RSE dans nos entreprises. Par où commencer et vers qui peut-on se tourner pour être accompagné dans cette démarche? Et sur quoi doit-on prioriser les actions? Jefferson, à toi.
Alors, par où commencer? Ce que je peux vous préconiser, c'est d'essayer d'abord de vous imprégner de la norme ISO 26000. Alors, elle n'est pas si compliquée que ça en tant que telle. En fait, elle a le mérite de vous présenter tout un panel de domaines donc, sur lesquels la RSE peut intervenir, que je vous avais évoqué tout à l'heure. Voilà, déjà une première phase d'imprégnation, justement de se rendre compte que la RSE n'est pas que l'environnement. Autre préconisation, donc c'est bien entendu mettre en œuvre des actions, mais peut-être pour éviter des actions qui pourraient être qualifiées de légères ou de cosmétiques, ce serait de lancer une réflexion en fait dans votre entreprise dès le départ, de faire un état des lieux, d'essayer de déterminer parmi toutes les thématiques RSE, celles sur lesquelles eh bien, vous êtes performante ou non. Donc, il serait un premier niveau, en fait, hein, pour jauger la priorité. Mmh. Et également un deuxième niveau qui est, selon vos yeux et selon vous et aux yeux des parties prenantes, quels seraient les domaines d'action prioritaires. Donc, toute une phase, finalement, de priorisation, pour déterminer quels seraient eh bien les objectifs que vous souhaitez vous fixer et ensuite élaborer un plan d'action. Et par rapport à la question vers qui on peut se tourner pour être accompagné, alors là aussi je pense qu'il y a tout un arbre des possibles. Et ça va dépendre également des moyens, je pense, de l'organisation. On peut bien entendu se faire accompagner par les cabinets de consulting. Ma petite préférence, ce que je voudrais vous préconiser, c'est en fait de tout simplement faire appel à un alternant qui fait des études en matière de RSE. Il y a pas mal d'écoles aujourd'hui qui proposent des formations complètes. L'avantage, c'est que l'alternant va vous apporter à l'esprit frais, en tout cas une vision candide dans l'entreprise, et il va pouvoir, par le biais de ses professeurs et des connaissances qu'il va pouvoir en tirer, vous apporter toute une méthodologie et toute une théorie, en fait, qu'il va pouvoir opérationnaliser dans l'entreprise. Et alors, j'insiste là-dessus parce que c'était, de mon côté, ma porte d'entrée, justement, dans le monde de la RSE, lorsque j'opérais ma reconversion professionnelle.
Tout à fait. Quel rôle un avocat conseil pourrait-il avoir dans la mise en place d'une démarche RSE au sein d'une PME, Maître Beckham?
Une fois que la réflexion dont on vient de parler Jefferson a été menée, je pense que le premier rôle d'un avocat, c'est d'aider à la mise en forme, en tout cas la sécurisation juridique des différents outils qu'on va souhaiter mettre en place. On peut intervenir au niveau de l'audit, hein. Ça peut être un audit social, par exemple, hein, sur les thématiques sociales pures. Hein. C'est ce qui est fait en matière de due diligence dans certaines entreprises, classiquement. Voilà. Donc ça, on a le savoir-faire pour ça, hein. Identifier les risques potentiels et les leviers sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, au niveau de l'audit, bien sûr, au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, de la rédaction d'une charte, hein, d'un document qui va mettre en forme et l'ensemble des dispositifs. On peut également accompagner le CSE, hein, les représentants du personnel, dans tous les aspects. Alors, ça peut être dans le cadre d'une réflexion globale, comme on vient de la présenter, mais plus ponctuellement, hein, sur les différentes thématiques, mais ça, on le sait de manière plus classique, hein, que ce soit dans les modes alternatifs de règlement des conflits, par exemple la médiation, que ce soit dans l'accompagnement... parfois la gestion de crise, malheureusement, hein, des droits d'alerte aussi, le droit d'alerte peut être une thématique de la RSE, que ce soit le droit d'alerte, en matière environnementale ou en cas de danger grave et imminent qui a été soulevé par un salarié ou par un membre de la commission santé. Voilà, donc on a tout un rôle d'accompagnement et de mise en forme, on va dire, surtout de sécurisation. Une fois que la réflexion en amont a été menée à son terme et qu'on passe à, non pas à la mise en action, mais on va dire au moins à la cristallisation des outils. Voilà, hein, à faire en sorte qu'on ait des règles du jeu qui soient intelligibles par tous et qui soient surtout faciles à mettre en œuvre.
Alors, merci beaucoup, Maître. Il y a une autre question sur laquelle on va passer vraiment rapidement parce que tous les sujets ont déjà été abordés, en fait. Des questions qui nous avaient été posées sur la possibilité de toutes les entreprises, enfin, quelle était la possibilité de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à s'impliquer dans une démarche RSE et qui doit porter ce projet. On a vu que toute entreprise, y compris une association ou un auto-entrepreneur, peut s'impliquer dans une démarche RSE. Et on recommande donc vivement, ça nous a été dit déjà par nos trois intervenants, qui est un chef de projet, un chargé RSE qui gère cette démarche au sein de l'entreprise. Donc, venons-en du coup au lien qui existe entre la RSE et la gestion des ressources humaines. C'est une question qui nous a été énormément posée. Je vous écoute, Thibault. Enfin, nous vous écoutons. Alors,
la gestion, je vais être le plus synthétique possible, la gestion responsable des ressources humaines, c'est évidemment un axe fort, hein, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La manière dont on gère la ressource humaine est évidemment essentielle. La ressource humaine, c'est à la base du fonctionnement de nos organisations. Donc, ça fait partie de la bonne conduite de nos affaires, de la responsabilité et du développement durable. Parce qu'il n'y a pas de développement durable, donc du développement dans la durée, s'il n'y a pas une gestion responsable des ressources humaines. Alors, je dirais trois. La responsabilité, enfin, la gestion d'employeurs responsables, il y a trois axes. Un, c'est le développement donc d'une politique d'emploi inclusive. Donc là derrière, on va avoir donc la mixité, la diversité, l'égalité, évidemment la non-discrimination, bien sûr, en creux. L'important, c'est d'être en adhérence avec la société, hein, pour une entreprise, ça c'est très important et c'est une source de performance, hein, c'est prouvé par des études. Deux, promouvoir la qualité de vie au travail. Certains ont évoqué effectivement le télétravail, évidemment, qui a bouleversé le télétravail massif, qui a bouleversé les conditions de travail. Bon, le télétravail était déjà en développement, déjà avant la crise du Covid, mais il y avait évidemment tout l'enjeu des conditions de travail, de la répartition vie privée, vie professionnelle, de la déconnexion, etc. On peut mettre aussi dedans tout ce qui est de l'ordre du respect du salarié, de la qualité du statut social, tout ça c'est évidemment essentiel. Et le troisième point, c'est tout à fait essentiel dans le monde économique dans lequel nous vivons, c'est favoriser le développement des compétences et l'employabilité des collaborateurs, hein, c'est-à-dire avec c'est à la fois la formation, mais pas que, c'est la gestion des parcours, le développement de l'agilité, etc., les situations apprenantes, et c'est une responsabilité très forte, hein, d'ailleurs c'est une co-responsabilité avec le salarié d'ailleurs, hein, de pouvoir gérer les mutations des métiers, notamment sous l'effet du numérique, hein, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qui peut être fait en termes aussi de qualité du management. C'est évidemment essentiel pour le climat social et le climat social de l'entreprise et la vie des salariés.
Voilà. Merci beaucoup, Thibault. Jefferson, quelques petits conseils. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans la mise en place d'une démarche RSE ?
Alors, les erreurs sont faciles. Je pense qu'il existe la recette idéale pour que la démarche RSE, sans jeu de mots, soit un cuisant échec. Alors, bon, il y a plusieurs composantes. Je vais peut-être me limiter à deux par rapport au temps qui nous reste. La première, c'est que l'organisation entreprenne une démarche alors même qu'il y a une défiance totale de la direction. Si la direction de l'entreprise n'est pas elle-même convaincue par l'importance d'intégrer la RSE dans sa stratégie, l'impact des actions qui seront mises en œuvre seront forcément limités, en tout cas les moyens qui seront alloués seront réduits. Et une deuxième composante qui pour moi est peut-être le corollaire d'une démarche non aboutie, c'est que ce soit uniquement un service qui gère la RSE en vase clos, de manière un peu déconnectée finalement des autres services de l'entreprise. Et là, je vous garantis que les impacts ou les résultats seront tout aussi limités. Au contraire, la RSE, c'est clairement quelque chose, en tout cas une matière qui est transverse, qui nécessite au quotidien, clairement pour le chargé RSE, d'être en contact avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de travailler conjointement avec eux pour implémenter la RSE dans leur propre finalement activité. Ça rejoint bien entendu la notion de partie prenante, donc incluant également donc le CSE qui finalement on ne peut pas engager une démarche RSE sans ces parties prenantes, sans être à leur écoute de leurs attentes et sans bien entendu les intégrer dans l'élaboration.
Très bien. Et donc un petit peu sur la même lancée, une petite question pour vous, Thibault. Comment améliorer la motivation et l'engagement donc de tous les salariés dans cette démarche ?
Alors, ça va être tout à fait dans le prolongement de ce que vient de dire Jefferson. Hein, c'est-à-dire, bon, j'en vois six points. Le premier, et c'est tout à fait dans le prolongement, donc associer en amont les collaborateurs, hein, le plus possible donc à la politique et les ressources de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au moment où on l'élabore même, hein, il faut les consulter. Il y a différents moyens de le faire, etc. Nous, on a fait ça aussi, bien sûr, chez Groupama. Deux, la simplicité. Si les objectifs ne sont pas clairs, etc., bon, ça paraît évident, mais on a parfois des stratégies RSE qui ne sont pas forcément très claires. Donc, la simplicité avec, effectivement, une vision claire de l'objectif, de l'impact recherché. Trois, de la mesure, mesurer, hein, et communiquer sur la mesure. Parce que quand on dit, bon, réduisons nos consommations d'énergie, etc. Bon, oui, alors c'est quoi les chiffres? Voilà, quels sont les chiffres et quels sont les résultats plutôt de ces politiques et communiquer dessus. 4, introduire une part de, enfin, introduire dans la rémunération, hein, une part de variable liée à des objectifs, à l'atteinte d'objectifs RSE. Alors, ça se fait dans certaines entreprises, à différents niveaux, etc. Mais ça, c'est un drive très fort en termes de mobilisation. Vous imaginez pourquoi. Le cinquième point, c'est donner des opportunités d'engagement, parce qu'on s'aperçoit effectivement que c'est quelque chose qui est très motivant pour les collaborateurs. Alors, de la mobilisation sociétale, alors qui est en lien ou pas d'ailleurs avec le métier de l'entreprise ou avec les métiers de l'entreprise. Et puis le sixième point, c'est important aussi, c'est avoir des formations RSE pour les collaborateurs, mais des formations RSE le plus possible liées au métier, pas forcément donc formation générale, bon, qui peut être intéressante aussi bien sûr, mais qui aura moins d'impact qu'une formation plus proche du métier. Voilà.
Très bien, oui, effectivement, quand on explique aux personnes comment être acteur concrètement sur un de ces points, un des points qu'il a à gérer tous les jours, c'est tout de suite plus facile. Oui. Alors, il nous reste encore 3-4 questions. Je suis désolée pour le retard. Alors, une question qui nous a été posée, excusez-moi, on va essayer d'avoir une réponse rapide, Thibaut. Existe-t-il un modèle de reporting RSE ? C'est une question qui a été posée par un de nos internautes.
Oui, il y a même plusieurs modèles. Alors, c'est vrai que nous, on est… en fait, les modèles, ils sont surtout destinés aux grandes entreprises, hein, en général. D'ailleurs, nous, on est… évidemment, on est une entreprise de plus de 500 salariés, un groupe même de plus de 500 salariés. Donc, on est soumis à un certain modèle de reporting RSE. Je ne reviens pas sur les aspects juridiques. C'est évidemment, c'est défini réglementairement, etc. Donc, on doit présenter un modèle d'affaires, montrer en quoi le modèle d'affaires est créateur de valeur, quels sont les enjeux et risques RSE liés à ce modèle d'affaires, avec les politiques mises en œuvre par rapport à ces enjeux RSE, des indicateurs, montrer que les risques RSE sont maîtrisés, etc. Donc, il y a aussi un modèle qui est très connu qui s'appelle la GRI, Global Reporting Initiative, qui est aussi un modèle très employé, notamment par les entreprises internationales. Et pour établir, alors les clés pour établir un reporting, j'en vois essentiellement deux. D'abord, c'est la qualité évidemment de la collecte de la donnée. C'est très important évidemment pour la fiabilité du reporting. Alors il faut faire des référentiels, il faut partager ces référentiels, avoir des référents évidemment dans les secteurs qui permettent de la collecte de ces données. Et puis il y a effectivement dans le rendre compte, il y a tout ce travail d'analyse des risques et des opportunités liées au sujet RSE, savoir exactement ce qu'on veut dire dans un reporting, et ça c'est évidemment essentiel.
Voilà. Effectivement, merci beaucoup Thibault. Alors, on rentre donc dans notre dernière partie. Nous allons parler des atouts de l'RSE et les perspectives, et ça achèvera, je l'espère, de convaincre les employeurs RH qui nous écoutent, et ça permettra de donner également des arguments aux élus qui sont présents. Quel intérêt une entreprise peut-elle avoir à s'engager dans une démarche RSE, Jefferson ?
Alors, la difficulté, c'est que en RSE, le coût, il est visible pour la mettre en œuvre, hein, au niveau du budget, des ressources, des équivalents temps plein qui seront consacrés à la mettre en œuvre. Par contre, les bénéfices et les avantages, c'est moins évident. Ils ne sont pas forcément visibles dans les médias. Alors, il y en a quand même, hein, des avantages, des bienfaits en RSE. Il y en a tout un tas. Alors, il y en a une trentaine. Alors, je présente, Myriam. On va se limiter à uniquement quelques-uns. Et je pense que les autres intervenants pourront compléter. Alors, très rapidement, naturellement, la RSE permet de faire des économies en ressources. Permet également d'apporter une certaine attractivité pour l'entreprise, que ce soit pour bien les futurs candidats à l'embauche, pour les consommateurs qui sont bien entendu de plus en plus sensibles, conscients et regardants sur justement les pratiques de l'organisation. La RSE, c'est également, ça devient un critère pour les appels d'offres, pour l'ouverture à certains marchés qui, au contraire, pondéraient dans les critères la RSE. Si vous souhaitez vous faire financer, il y a une tendance effectivement à ce que les financeurs soient également donc de plus en plus regardants, hein, sur la durabilité de votre activité. On l'avait évoqué tout à l'heure. D'autres arguments après. Peut-être celui qui va davantage intéresser la direction, qui est qu'est-ce qu'on y gagne au niveau financier. La RSE, alors j'ai plus la source, mais c'est rentable. En moyenne, une entreprise qui eh bien, se lance dans cette démarche va être en moyenne 13% plus rentable qu'une entreprise qui n'aura pas cet élan. Alors, peut-être que les autres intervenants souhaitent compléter.
Oui, parce que justement, la question suivante était pour Thibaut de Fouchécourt. Et c'était comment faire de la RSE un outil de développement économique. On a eu énormément de questions qui tournaient autour de cette thématique.
Alors,
nous vous écoutons.
Je pense que Jefferson a dit vraiment l'essentiel. Je vais compléter. Effectivement, donc la RSE, elle doit être avant tout pragmatique et surtout pas idéologique, naturellement, parce que c'est quelque chose qui peut être vu à l'origine comme qui a pu être perçu à une époque, moins maintenant, comme quelque chose d'idéologique. Bon, ça doit être resté pragmatique. Donc il n'y a pas de honte à rechercher un gain pour l'entreprise, à cumuler un objectif sociétal et financier. Il ne s'agit pas d'exclure l'un et l'autre, ça c'est absolument essentiel. Évidemment, il faut que l'entreprise fasse des choix cohérents avec son identité, son modèle d'affaires, donc et raisonner en opportunité. Hein, en quoi le monde a besoin de quoi, en quoi on est le meilleur, comment on peut gagner de l'argent en répondant à ces questions, comment peut-on créer un avantage différenciant, hein, tout ça, c'est les questions que les entrepreneurs et les responsables, les RSE évidemment, doivent se poser. Donc, Jefferson a évoqué, effectivement ces leviers, hein, la motivation, mobilisation des collaborateurs, réduction des coûts, c'est une source aussi d'innovation, hein, et donc on peut penser évidemment de gains de parts de marché, d'innovation rentable, naturellement, de gains de parts de marché pour l'entreprise, et puis aussi donc la question de l'image, effectivement, interne, externe, Jefferson l'a évoqué aussi, l'attractivité à la fois pour les clients, pour les candidats sur le marché du travail, etc. Et aussi, la RSE est un moyen aussi de réduire les risques de l'entreprise sur les aspects, les items sociaux, sociétaux, environnementaux, et ça, c'est pas le moindre des avantages non plus.
En effet, merci beaucoup. Alors, une question vraiment tournée vers l'avenir. À votre avis, à tous les trois, quel est l'avenir de la RSE? On a eu des questions qui évoquaient ce qui s'était passé récemment chez Danone avec l'éviction du PDG. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la RSE? Et est-ce que ça ne deviendrait pas une obligation pour les entreprises à plus ou moins long terme? Je vous cède tout d'abord la parole, Maître Beckham.
Oui, ouais, je pense que comme beaucoup de thématiques un peu innovantes, il y a une inertie, donc il y a toujours une force de résistance. Maintenant, si on pense à la RSE qu'en termes d'obligation, et on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est déjà comme certains font de la prose sans le savoir, beaucoup font de la RSE sans le savoir, mais c'est déjà obligatoire par pas mal d'aspects. Maintenant, si on ne le pense qu'en termes d'obligation et si on ne le voit que comme une contrainte, on est perdant puisqu'on n'a que l'effet négatif en définitive. Si on veut pouvoir profiter de l'effet vertueux de la RSE, il faut réellement se l'approprier, avoir une véritable volonté de la mettre en œuvre. Et là, on aura tous les bénéfices de ce type de dispositif parce qu'au final, ce qui ressort de tous nos échanges, c'est qu'il y a une vraie question du sens derrière. Et cette question du sens, elle n'est pas seulement posée par les salariés, elle n'est pas seulement posée par les partenaires, elle est posée par l'ensemble de la société. Et si aujourd'hui c'est mis sur le devant de la scène, c'est que ça répond à un véritable besoin au sens global. Donc je pense que moi, la RSE a un bel avenir, qu'on le veuille ou non. Et c'est comme quand on fait un peu de surf, hein, moi je suis en Aquitaine. Et donc je vais prendre cette analogie, hein, vous avez le droit, voilà, soit vous prenez la vague sur la tête, soit vous essayez de la surfer. Et effectivement, le plaisir n'est pas le même et surtout, le rendu est largement différent. Voilà.
En effet, belle image. À toi, Jefferson.
Je pense que le constat, il est clair. Hein. La RSE, ça devient, en tout cas, la tendance, c'est que ça devient inconditionnel, en fait, hein, dans les entreprises qui s'y mettent de plus en plus. Par contre, je suis un petit peu partagé sur l'avenir de la RSE. Bon, je reste optimiste, mais je pense qu'il y a peut-être deux voies possibles. La première, c'est que la RSE a fait l'objet d'une réglementation de plus en plus sévère parce que l'on constate qu'il peut y avoir des abus. Et donc, la RSE sera corrélée à des sanctions. Après, l'autre voie possible qui est désirable, en tout cas idéale, c'est que la RSE donc, soit prise à bras-le-corps finalement par les entreprises parce qu'elles y voient une réelle opportunité. Et je vous confirme que c'est véritablement une opportunité. Donc, je penche davantage sur cette seconde voie. Pour moi, l'avenir, disons, de la RSE, c'est qu'elle devienne naturellement native dans les organisations, qu'elle devienne une évidence et qu'elle s'intègre pleinement et naturellement dans la stratégie de l'organisation.
Merci beaucoup, Jefferson. Et le mot de la fin pour vous, Thibault ?
La performance des entreprises, maintenant, quelle que soit leur taille, donc est de plus en plus évaluée sur des critères à la fois financiers et extra-financiers. Donc, ça a été dit aussi, c'est un peu au début. C'est très vrai. Et maintenant, de plus en plus, d'ailleurs, pour répondre à des appels d'offres, obtenir les meilleures conditions en termes de crédit, d'assurance ou pour attirer des talents sur le marché du travail, etc. Donc, il faut être exemplaire, créer de la différenciation et puis être exemplaire sur les critères RSE, ça, c'est vraiment l'avenir. Donc, côté ou non, grand ou petit, donc la RSE, c'est devenu, mais ça, c'est tout à fait dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est devenu un peu une condition de survie dans la durée de l'entreprise maintenant. Cette question, effectivement, de l'alignement des intérêts des parties prenantes, qui est essentiel pour la performance in fine de l'entreprise et l'impact positif de l'entreprise sur la société, qui est appelé à apporter des réponses sur des sujets sociétaux. D'ailleurs, les attentes sociales, sociétales plutôt, par rapport aux entreprises sont très fortes. Des attentes aussi vis-à-vis de l'État, etc. Il n'y a pas que les entreprises, mais les attentes sociétales sont très fortes par rapport aux entreprises, elles devront y répondre. Et évidemment, elles devront marcher sur tous leurs appuis, si je puis dire, c'est-à-dire traiter le sujet environnemental, traiter les sujets sociétaux, notamment l'inclusion, et traiter aussi le local, l'impact local de l'entreprise. C'est évidemment essentiel. Voilà, donc pour finir.
Merci beaucoup, Thibault. Je m'excuse encore d'avoir débordé sur le temps imparti. J'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu beaucoup de réponses à vos questions. N'hésitez pas à contacter donc les intervenants pour tout complément d'information. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges. Mes collègues vous transmettent en ce moment les liens sur le chat. Donc, au revoir et merci encore à vous trois, à vous, Maître Beckham, à vous, Thibault, et à toi, Jefferson, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi.
Au revoir.
Merci beaucoup à tous.
Au revoir.
Donc, merci encore à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir et prenez soin de vous. Et prenons tous soin de notre planète. Nous n'en avons qu'une et il faut la soigner. À très bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.